Dans l'émission Les Grands s'amusent, la transmission de nos aînés, nos mémoires vives. C'est la continuité du monde, de nos valeurs, c'est surtout du partage entre générations, une manière de se rapprocher les uns des autres. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Stéphane Goldet. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Anne et bonsoir à tous vos auditeurs.
Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Alors, vous êtes productrice pour Radio France. Vous étiez productrice pendant 40 ans. Vous y avez animé des émissions comme Atelier des chanteurs et Sacrée musique. Vous êtes spécialiste de la musique germanique des 19e et 20e siècles et plus particulièrement du Lied auquel vous avez consacré de nombreuses émissions comme Lettres intimes, Prima la musica et Plaisir du Quatuor. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage sur Hugo Wolf. Vous étiez une grande voix de France Musique. De votre terrasse perchée, vous avez une vue à 360 degrés, clin d'œil à votre regard musical éclairé, qui met en évidence les différents aspects de l'interprétation, spécialement par le travail du chant. Vous mettez la musique en mots pour mieux la faire entendre. On vous sent animée, pleine de fantaisie, de joie de vivre, de rigueur aussi. En perpétuel mouvement comme une cantate, une sonate, une fugue, une symphonie, un concerto, un lied, un opéra, un oratorio. Un peu comme dans le début du 4e mouvement de la symphonie numéro 5 de Beethoven, pleine d'enthousiasme juvénile. Vous vous sentez passeuse dans l'âme.
Anne, je rougis. Je rougis. Arrêtez, soyez gentille. Je vais partir sous la table.
On vous garde, restez avec nous quand même. Stéphane Goldet, qu'avez-vous reçu en héritage culturel et intellectuel? Que vous ont transmis vos parents? Est-ce qu'ils vous ont transmis le goût de la musique?
Alors, pas du tout. Mais ce qui s'appelle pas du tout, et je leur en sais gré. Car la musique, c'est une chose à moi et à moi toute seule. Alors ça, c'est quelque chose que je prends comme un cadeau, si vous voulez. Je diviserai mon enfance en deux temps, avant 11 ans et après 11 ans. Avant 11 ans, je suis l'aînée d'une famille nombreuse, ma mère avait fort à faire, surtout que moi j'étais très indisciplinée, les autres peut-être un peu moins, mais enfin je devais être assez encombrante. Avant 11 ans, je mène une vie normale, dans scolarité sans histoire. Je suis issue d'un milieu assez curieux, parce qu'il y avait le milieu de ma mère et le milieu de mon père qui n'était pas identique. C'est le milieu de mon père qui était dominant. C'est ce qu'on peut appeler la bourgeoisie juive assimilée. La famille de mon père est arrivée en France, juste après Napoléon, c'est-à-dire dans le premier tiers du 19e siècle. Donc on est vraiment bien français. Mais les mariages étaient entièrement entre juifs jusqu'à la génération de mes parents, c'est-à-dire jusqu'à la guerre. Donc mes parents sont un couple mixte, ma mère est d'origine grecque, mon père est d'origine juive, mais le plus important de tout ça, c'est un milieu totalement laïque. Tout le monde était hors de toute question religieuse, et je leur en suis très reconnaissante à l'heure d'aujourd'hui. Je suis vraiment une laïcarde dans l'âme. Alors avant 11 ans, pas de problème, je mène une vie scolaire sans histoire. À 11 ans, il se trouve que je rencontre un très bon professeur de piano.
Thierry de Brunhoff.
Non, elle s'appelait Françoise Dupré. Elle était elle-même une élève de Thierry de Brunhoff, avec laquelle elle m'a mis en contact ensuite. Ouais. Mais ce professeur de piano a décelé... Enfin, disons, elle a eu une manière de m'enseigner le piano. Elle ne m'a pas enseigné la musique. Le piano, elle m'a donné la musique. Elle m'a donné la musique d'une manière telle que dans cette année de 5e, donc, et probablement je l'ai confirmé en 4e, quand j'avais 12 ans, la musique, c'était ma vie. Point. Alors, j'aimais beaucoup le fait qu'à la maison, ça n'intéresse personne. C'était ma chose, j'allais mon rythme, personne ne me posait de questions, personne ne s'intéressait à ça. Parfait, c'est tout ce que je demandais. Et j'ai eu une sorte de double vie, je dirais, à partir de mes 12 ans, parce que dans le système scolaire français, quelqu'un qui aime la musique, c'est pour les profs, ça compte pas, hein. Ça n'existe pas, c'est zéro, c'est nul et non avenu. Oui. Et donc j'avais une sorte de double vie, c'était très amusant, j'avais la chance d'être je dirais, adaptée au système scolaire français, ce qui fait que j'apprenais vite et je pouvais, si vous voulez, j'écoutais d'une oreille un cours, ça rentrait quand même, j'étais capable de faire les exercices. Je n'en tire aucune gloire, j'étais ce qu'on appelle une bonne élève, mais sans aucun mérite personnel parce que je ne me donnais pas de mal. Mon cerveau était adapté à ce système, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était d'apprendre la musique. Alors, ce qui était formidable avec ce prof de piano, c'est qu'elle m'a tout de suite dit « Tu t'intéresses à Schubert ?» Écoute ce qu'il a écrit pour la voix, va au concert. Tout de suite, elle a élargi le champ. Et le résultat, c'est qu'effectivement, je me rappelle très bien, par exemple, à peu près en troisième ou en seconde, vous savez, quand on arrivait à la rentrée, il fallait acheter tout un tas de cahiers qui avaient un tas de formats. Le prof de sciences nat voulait que ça ait 2906. Et moi, j'achetais mes cahiers uniquement avec le format qui me permettait d'avoir des partitions dedans. Oui, et donc, oui. Dans les cours où je m'embête, que je puisse lire de la musique. Donc, le prof pouvait dire qu'il voulait je ne sais combien de centimètres. Si le je ne sais combien de centimètres ne me permettait pas de cacher la musique, j'achetais un autre format sans l'ombre d'une hésitation, ce qui m'a valu quelques remarques assez acerbes. Ah, Stéphane Goldet, qui n'a jamais les mêmes cahiers. Tout le monde, oui, mais j'avais de très bonnes raisons. Je planquais ma vie secrète et je m'en suis très, très bien sortie. Voilà. Ma vraie vie commence quand j'ai 11 ans.
Il y a une citation de Michel Serres, « Naître à la vie ». Entrer en musique, ça correspond un petit peu ce que vous me racontez là.
Ah, je ne la connaissais pas celle-là, merci Anne, bravo.
Vous êtes née à la vie. Donc, est-ce que vous êtes tombée amoureuse de la musique comme Nina Simone est tombée amoureuse de Jean-Sébastien Bach?
Oui, je suis tombée amoureuse de la musique classique, on va dire. De manière inconditionnelle, mais en même temps en ayant tout à fait le sentiment que c'était, et ce qui était grisant, c'est que c'est une forêt vierge qui vous est offerte et c'est à vous de tracer. C'est à vous de choisir, c'est à vous d'essayer certains chemins, de monter quelquefois à l'arbre, de redescendre parce que vous avez la trouille ou que ça ne vous correspond pas, que la vue de là-haut n'est pas belle. C'est sans fin.
Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, donc à ce moment-là, je vais composer, je vais jouer de la musique, je vais en faire mon métier? Est-ce que vous vous êtes posé ces questions?
Oui, je me suis posé ces questions, mais ce prof de piano que j'avais, Françoise Dupré, qui donc m'a mise ensuite en rapport avec Thierry Brunhoff, c'était une immense pointure d'artiste, elle a été très claire tout de suite. C'était une femme droite et intelligente, mais Stéphane, tu n'es pas très douée. Donc, pas de carrière. Hein.
Donc, déception, là?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Ouais. J'ai tout de suite... C'était tellement vaste, cette forêt. Mmh. J'ai tout de suite vu qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire. Oui. Je me suis tout de suite dit, ma vie sera la musique. J'étais parfaitement sereine, pourtant je suis angoissée de nature, et pas vraiment optimiste, mais je me suis tout de suite dit, je trouverai.
J'en ferai quelque chose.
Au pire, j'enseignerai, ce que j'ai commencé à faire quand même pendant 4 ans. Et au pire, j'enseignerai. Je ne dis pas au pire à cause de la mission de l'enseignement, qui est une des belles choses de la transmission, mais parce que je voyais bien ce que c'était que le système scolaire français et la place de la musique.
Il n'y avait pas de place pour ça.
Il n'y a pas de place. Si j'avais été suisse, je serais peut-être restée professeure de musique toute ma vie, mais pas française.
Et justement, vous n'avez pas eu envie d'aller apprendre la musique à l'étranger, en Suisse, comme vous dites, ou aux États-Unis?
Oui, j'aurais dû le faire, et c'est un de mes regrets, quand j'ai eu le bac, de manière tout à fait injustifiée, parce que vraiment, arrivé en seconde, première, terminale, je ne faisais vraiment plus rien. Je ne pensais qu'à organiser ma vie autour du travail du piano, des concerts, des leçons à aller picorer à droite, à gauche, des disques à écouter. Le temps qu'on passe à écouter des disques, c'est formidable, on se forme comme ça. Donc, si vous voulez, j'étais pas du tout... j'étais pas du tout... Oui, je me disais pas que c'était tout cuit, mais que j'y arriverais forcément. Ouais. Composer, ça ne m'a jamais attirée, parce que je me suis rendu compte en cherchant à improviser sur le piano que je faisais juste du sous Mozart, sous Beethoven. Donc c'était pas mon truc non plus, mais encore une fois sans dévalorisation, parce que tout de suite j'ai senti que plein de choses étaient possibles.
Il y avait des choses à faire. Quelles ont été vos influences musicales?
Alors, ce professeur-là, qui m'a vraiment dit « fais ton chemin, lis des livres, écoute, quand tu travailles une œuvre, écoute-en 3, 5, 10 interprétations hein. ». Et je me considère, de ce point de vue-là, je lui dois beaucoup, mais je me considère principalement comme une autodidacte. Oui. Comme autodidacte. Oui. Et tout ça pendant les années de scolarité. Et ensuite, quand j'ai eu le bac, je me suis inscrite en musicologie à la Sorbonne. La Sorbonne, juste après 68, on est en 71, est très déstructurée. Et ça partait un peu dans tous les sens. Du coup, je peux te dire que j'en ai pas retenu grand-chose. J'ai continué à m'auto-didactiser, comme je le faisais pendant mes années de lycée.
Pas de prof, de professeur.
Je me vois pas étant malhonnête au micro de Radio Aligre. Ça serait quand même un comble pour une productrice de Radio France. Je vous dois la plus grande honnêteté. Ce qui a été le plus sympathique dans mes années d'études, c'était la formidable relation de confiance, d'amitié et d'un petit peu plus qu'on avait entre étudiants et avec les professeurs. Les professeurs étaient très jeunes, après mai 68 en musicologie, on avait des professeurs qui avaient 5, 6, 7, maximum 10 ans de plus que nous. Tout ça dans cette espèce d'extraordinaire liberté qu'il y avait après 68. Je dirais que ça a été un joyeux carnaval et ça, j'en ai de très, très, très bons souvenirs. Il y avait quand même une insouciance, c'était avant le sida, c'était les années de libération sexuelle, il y avait une euphorie générale, la société allait bien, il y avait une grande harmonie, une grande joie de vivre. Et mes années de musicologie, c'est plutôt ça.
Hein, c'est plutôt ça. C'est ensuite que vous êtes intéressée vraiment à la musique. Alors, la musique allemande, la musique...
Ça a commencé à 11 ans. C'est la même qui a continué. Ouais, c'est la même que j'ai approfondie. Ouais. Et donc, quand j'étais terminée la dernière année de musicologie, il y a à l'époque, donc on est en 73 ou 74, je ne sais pas si les auditeurs sont, j'espère certains ont notre âge, mais certains, je l'espère, sont plus jeunes, le chômage n'existait pas à cette époque-là. On voulait un travail, on l'avait. C'est incroyable. Donc la dernière année de musicologie, il y a une association qui s'était montée pour recruter pour celles des banlieues qui avaient besoin de professeurs de musique parce qu'il y avait une grosse pénurie à l'éducation nationale et qu'en plus certaines écoles primaires étaient demandeuses d'avoir en plus pour relayer l'institutrice un professeur de musique. Donc cette association était chargée de recruter. Ben, je me suis laissée recruter et j'ai fait 4 ans d'enseignement.
Et
j'ai fait
4 ans d'enseignement comme ça. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que du coup vous aviez déjà des choses alors des goûts musicaux très marqués quand vous aviez commencé l'enseignement?
Oui. Très juste. Qui sont les actuels simplement que j'ai approfondi avec le temps. Mais je me suis tout de suite rendu compte que si vous trouvez devant des enfants qui aient 6 ans, 8 ans ou 11 ans, c'était à peu près le panel que j'avais, il n'était pas question de leur demander d'écouter Mozart et Beethoven.
Vous avez commencé par quoi alors?
Ouais, j'ai commencé par leur faire faire de la musique.
Par leur faire faire.
Ouais, ouais. J'ai commencé tout de suite direct. Ouais. Je savais très bien qu'il fallait surtout pas parler de solfège ni rien.
Oui,
de toute façon, on n'avait pas d'instrument. On n'avait rien. L'idée à l'époque, ça c'est tout ce monde tellement inventif quand même d'après 68, on va faire de la musique avec ce qui est dans la classe. Et donc, évidemment, les boîtes de crayons, les élastiques, certaines choses qui ont pu tout d'un coup devenir résonantes. Enfin, j'ai fait énormément d'orchestres avec les enfants. D'abord, parce que j'ai eu tout à fait le sentiment que, en France, on considérait de manière un peu archaïque que on travaille son instrument tout seul dans son coin ou on chante pour devenir un ténor d'opéra. Mais qu'en fait, la réalité des métiers, c'était pas ça du tout. La réalité des métiers, c'était s'inscrire dans une collectivité, que ce soit un ensemble, un orchestre, un groupe.
De les préparer...
De faire de la musique tout de suite ensemble.
Oui.
Tout de suite ensemble. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu des convenus. On en a tous dans nos métiers, c'est normal. Au bout de 4 ans, j'étais quand même assez épuisée. J'étais quand même encore assez jeune. Et par un concours de circonstances qui, évidemment, comme toujours dans la vie, sont en partie dues au hasard et en partie à des fidélités en amitié, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rentrer à la radio.
Bon, on va en parler. Alors, on va passer un premier morceau de musique que vous avez choisi.
Alors, avant qu'on le passe, je voudrais en dire un mot.
Soit avant, soit après.
Les deux,
comme vous voulez.
Les deux, en général.
Je vous laisse annoncer le morceau.
Les
de
deux,
Haydn.
En général, je voudrais qu'on parle de la musique et puis qu'on parle ensuite des interprètes. Parce que la musique, c'est des interprètes, c'est pas désincarné.
Haydn. Je vous laisse annoncer.
Haydn, pour, j'imagine, pour une partie de nos auditeurs, c'est la musique classique, c'est un peu embêtant, quoi. C'est convenu, c'est poussiéreux. Mais est-ce qu'on sait vraiment quand est née la musique classique? Oui, on le sait. Elle est née en 1780. Et comment est-ce qu'elle est née, la musique classique? Elle est née tout simplement parce que avant, c'était de la musique baroque et chacun était dans son couloir. Quand on créait de la musique religieuse, c'était sérieux, c'était chanté. On écrivait de la musique instrumentale, c'était pour faire danser les gens. C'était des suites. Enfin, on écrivait. Les genres étaient dans leur couloir. Et puis tout d'un coup, au milieu du XVIIIe siècle, il y a eu une espèce de truc formidable qui a été cet engouement dans toute l'Europe pour l'opéra bouffe. L'opéra bouffe, c'était la télé, l'internet, tout ce que vous voulez. C'était absolument formidable. Il y en avait pour tous les milieux. Grosso modo, l'opéra bouffe, vous savez ce que c'est. C'est un mari, un amant, une femme avec un arlequin. Enfin, délicieux, c'est la vie. Eh bien, toute la musique s'est mise à complètement fusionner sous la poussée de cette histoire de l'opéra bouffe. Et donc, tout d'un coup, tous les styles musicaux ont fusionné et tout est devenu gai, vivant, pétillant. Un quatuor à cordes, dans l'idée d'une partie de notre public, je sens que c'est quatre instruments à cordes, qu'est-ce que ça doit être ennuyeux? Ben vous allez voir, avec la grenouille là, on l'entend sauter dans les prés.
Oui, parce qu'on va voir effectivement que...
grenouille qui saute dans les prés, parce que c'est l'opéra bouffe qui a fait fusionner tout ça et on a ce style rapide, amusant, décrispé dans tous les secteurs de la vie musicale, aussi bien la vie religieuse que la musique instrumentale. Là, je vous dis, les contemporains l'ont appelé la grenouille. Vous allez voir, on l'entend sauter. Hein.
Alors, on va l'écouter sauter tout de suite. On va retrouver. Je vous laisse désannoncer le morceau que nous venons d'écouter.
C'est Stéphane. Le final du quatuor à cordes opus 50 qui s'appelle La Grenouille. Pourquoi La Grenouille? Ben voilà, on a compris.
Elle sautille partout.
Elle sautille partout. C'est les contemporains qui avaient trouvé ce surnom qui est complètement adapté. Je voudrais.
C'est un morceau très joyeux. Hein.
Oui, c'est Haydn, c'est cette grâce de notre époque d'écoute. Je vous assure, quand on a un petit peu de cafard, on écoute un petit peu de Haydn, des choses comme ça, on se sent tout de suite plus d'attaque.
C'est votre compositeur fétiche, non?
Un peu. Mais pardon de parler de Haydn, je voudrais parler des interprètes, parce qu'il n'y a pas de musique sans interprète.
Et oui. Hein,
parce que bon, quand j'étais là, moi, à lire mes partitions, quand j'étais gamine, là, au lycée, ça allait de pair avec le fait d'écouter des disques dès que je rentrais à la maison. Hein. Je pense que ma mère s'était rendue compte très progressivement que je fichais vraiment plus rien. Ça l'agaçait, mais plutôt que d'entrer en conflit avec moi, parce que je devais avoir une sacrée répartie.
Un sacré caractère.
Elle me laissait faire. En même temps, je voyais qu'elle était pas... Elle voyait très bien que je fichais plus rien. J'écoutais beaucoup de disques parce que la musique, c'est incarné. C'est incarné et ce... quatuor-là, même ce final-là, si vous ne le jouez pas au bon tempo, si vous le jouez un peu mou, eh ben, il peut devenir assez vite ennuyeux. Alors, je ne veux pas vous faire de preuves, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est d'aider les interprètes, et c'est un peu à ça à quoi
On en parlera tout à l'heure.
Bon, on en parlera tout à l'heure, mais pour l'instant, celui qui l'a interprété, là, le quatuor Hudson, est un jeune quatuor qui existe depuis 2013, et qui, avec ce disque que j'ai un petit peu aidé, on en parlera si vous voulez bien, a eu tout un tas de reconnaissance, si vous voulez. C'est un quatuor qui n'avait pas de discographie, c'est un ensemble qui, maintenant qu'il est identifié par ce disque dans lequel il y a 6 quatuors de Haydn qui ont tous au moins un mouvement aussi marrant que celui-là, ils ont eu le choc classica, le diapason d'or, le diapason de l'année, et ce disque a été tout à fait reconnu, et maintenant vogue la galère, ils peuvent y aller.
Et on sent, c'est vrai que vous prenez énormément de plaisir, et j'ai vu aussi, j'ai écouté que dans l'opus 33 c'était le silence le plus drôle de la musique, parce que Haydn il arrête, il stop, le public ne sait pas trop s'il doit applaudir ou pas. En fait, il savait surprendre son public.
Bah parce que je vous dis, c'est l'opéra bouffe. Donc c'est le théâtre. La musique classique, c'est du théâtre. Et si elle ne vous donne pas ça, eh ben, c'est que les interprètes sont passés à côté.
Ils ne sont pas au bon tempo.
Ouais. Ils ont pas le c'est vraiment du théâtre. Alors, ce qui n'empêche qu'il y a des moments d'émotion, hein. Bien sûr, dans le théâtre aussi, il y a des moments bouleversants. Enfin, c'est quand même, la musique classique, c'est l'esprit de l'opéra bouffe.
Et oui, c'est ça, ouais. Et donc, ensuite, vous allez nous raconter comment vous êtes arrivée à la radio.
justement, par le fruit du hasard.
Oui.
Par le fruit du hasard, par une rencontre d'un producteur chez une amie. Et j'étais à côté de lui, et je me rappelle très bien qu'on a passé la soirée à parler des Noces de Figaro de Mozart.
Oui.
Et il s'est dit, il était lui-même un producteur assez chevronné à la radio, il s'est dit, mais cette fille, elle ne s'en rend pas compte, elle est faite pour parler dans un micro, je pense, quelque chose comme ça.
Vous savez transmettre, en tout cas, votre passion, on sent que vous avez une joie de transmettre, c'est génial.
Enfin, ce qui était amusant à ce dîner, c'est qu'en fait, je crois que je l'avais un peu engueulé, parce qu'il ne voyait pas les Noces de Figaro comme moi, et j'étais persuadée que j'avais raison. J'avais 23 ans, rien ne vous, on ne doute de rien à cette époque-là, maintenant, je serais beaucoup, beaucoup moins formel sur tel ou tel aspect des Noces de Figaro, mais je l'avais engueulé. Il avait été amusé, il m'a dit, on va lui mettre la pied à l'étrier à celle-là, puisqu'elle croit qu'elle se connaît les Noces de Figaro. Et évidemment, une autre chose, on le sait, hein, Anne, de débarquer dans ce métier, on commence par avoir des tracs fous.
J'ai le trac en face de vous, d'ailleurs, parce que
j'ai 40 ans d'expérience. Mais vous savez ce que Jouvet disait du trac. Hein,
vous savez que c'est très bon d'avoir le trac, et vous avez eu le trac jusqu'à la dernière émission, c'est
oui,
ça?
Oui, non, mais ce que Jouvet disait du trac, c'est qu'il avait une fois une élève en classe de théâtre qui lui disait qu'elle se sentait très bien, et notamment qu'elle n'avait pas le trac. Et Jouvet lui a répondu, alors j'aimerais savoir l'imiter, mais je ne sais pas tout faire, je ne sais pas imiter Jouvet. Et ben ma petite, le trac viendra avec le talent s'il doit venir un jour.
Ah, si c'est le talent doit... C'est sévère.
Donc le trac,
Bon, en tout cas, vous avez eu le trac. Vous avez été vraiment méritante. Alors, on va rappeler en deux mots ce que c'est Radio France. Radio France, ça a été dirigé très longtemps par Monsieur Bouteiller.
Non, pas si longtemps que ça.
Pas si longtemps
Bouteiller,
que ça.
Bouteiller a été directeur de France Inter, je crois, pendant un certain nombre d'années, et de France Musique chez nous pendant 2 ans.
Oui.
À l'époque où je suis entrée à la radio, France Musique était un département du secteur musical de Radio France. Le secteur musical de Radio France, qui est né en 1945, c'était surtout un orchestre, puis deux, puis un chœur.
Oui.
Et donc, la radio était un département de ce secteur musical, et le directeur était, de ce fait, curieusement, politiquement fragile. C'est-à-dire que c'était les orchestres qui déterminaient un petit peu la politique. Enfin, c'était pas le directeur de France Inter ou le directeur de France Culture, ils avaient une vraie chaîne de radio qui était autonome.
Oui.
France Musique, c'était un peu bancal. Et du coup, je dirais qu'en 40 ans de radio, j'ai peut-être pas vu 40 directeurs, mais j'en ai sûrement au moins vu 20-25.
Oui, effectivement. Ouais. Et donc, vous disiez qu'il y avait, en tout cas, l'un des directeurs qui était... que c'était une chaîne très bien tenue et que vous étiez... qu'il écoutait chacune des émissions pour pouvoir justement...
Là, on a eu toutes sortes de directeurs. Alors là, je ne peux pas rentrer dans les détails.
Non,
je suis assez sévère sur l'ensemble, mais en même temps, je ne suis pas sévère sur Radio France, qui m'a permis d'avoir quand même... de pouvoir exercer mon amour de la musique et de le transmettre, j'espère, pendant 40 ans. Donc, je ne vais certainement pas être sévère, mais c'est vrai que le directeur, le premier qui m'a vraiment donné des grosses responsabilités, c'est-à-dire 15 heures d'antenne ou des choses comme ça, qui s'appelait Alain de Chambure, il m'a dit: Stéphane, quoique savante que vous vous croyez sur un sujet, si vous pensez que vous avez travaillé à fond votre sujet, n'oubliez jamais que quelque part, vous aurez forcément au moins un auditeur qui connaîtra ce sujet-là mieux que vous. Et adoptez un ton en conséquence. Et ça, je n'ai jamais oublié cette phrase. Que j'ai oublié quelquefois d'adopter le ton en conséquence, ça, certainement, et il y avait toujours un auditeur pour soit remarquer la bêtise, soit me faire remarquer quelque chose de tout à fait juste.
Mais maintenir un niveau d'exigence assez...
Oui.
S'élever.
Il y a toujours, il y a toujours des voilà.
Oui. Alors c'est vraiment, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter vos émissions de radio parce qu'on vous faites participer aussi le public et c'est très rigolo parce que on sent vraiment que vous avez envie de transmettre votre passion. Vous êtes complètement plongé avec le public. Vous avez envie de voilà, vous êtes très pédagogue en fait dans vos... C'est vrai, hein.
Ben, je pense
vous
que dans,
très pédagogue,
dans, dans ma famille, du côté de mon père, on est des profs plus ou moins rentrée.
Oui,
j'ai une
ça
nièce,
se sent, ce
j'ai,
côté,
j'ai une
ouais.
nièce qui est une coach sportive que je trouve qui est un très très bon
ah,
prof.
Oui.
Si
ah,
vous
oui.
voulez, je trouve il doit y avoir quelque chose dans le sens. Je suis pas sûre d'y être pour quelque chose. Ce qui est en revanche certain, c'est que comme j'ai toujours considéré que les interprètes, c'était eux qui rendaient la musique classique vivante, il fallait, dans la mesure du possible, ce qui n'a pas du tout été toujours possible pour moi durant 40 ans de radio, faire des émissions avec des interprètes. Et si possible, quelquefois, et dans les 20 dernières années, 15 dernières années, ça a été tout à fait possible, en public. Pas toutes les émissions
pas toutes
en
les
public,
émissions, ouais.
Non, mais une sur 3 ou 4.
Et ça, c'est quelque chose qui vous animait, justement, d'avoir ce public qui...
Bah, comme ça, on apprend son métier.
Vous apprenez.
Et comme
ouais.
ça, on apprend jusqu'au bout, ouais. puisqu'on parle à...
Ouais.
Si vous voulez, quand vous avez le public dans la salle... Vous commencez à sentir quand vous commencez à être trop long,
oui.
ou quand vous vous perdez dans un truc.
Oui.
C'est alors j'ai toujours utilisé entre guillemets les techniciens pour ça, c'est-à-dire que du temps où je faisais de la radio à Radio France, je les regardais dans les yeux et j'espérais voir
un petit coucou.
Mais ils sont adorables, les techniciens, ils nous écoutent très tranquillement, ils sourient quand ils sont pas masqués. Donc si vous voulez, c'est un bon public, c'est un trop bon public les techniciens. En revanche, le public d'un studio qui vient c'est donc voilà, c'est une très bonne leçon parce que vous savez on apprend dans tous les métiers toute sa vie quoi.
Toute sa vie. Et vous, il y a quelque chose qui est important. Vous dites, on apprend, mais on ne néglige jamais de s'amuser. Vous avez toujours eu du plaisir à passer les morceaux que vous avez passés. Vous n'avez jamais passé quelque chose que vous n'aimiez pas.
Oui, et ça, c'est... Merci le service public, parce que si vous voulez, j'avais une liberté de programmation complète. Il va de soi que dans l'équivalent qui n'est pas public pour une radio commerciale, il y a des obligations de diffuser des choses qui correspondent à vos annonceurs.
Oui.
C'est tout à fait normal. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir être toujours la maître d'œuvre complète de ma programmation, ce qui veut dire que j'ai rarement diffusé une chose en me disant « Tiens, ce disque me plaît, je le passe ». J'ai toujours vérifié que vraiment, oui, c'était la version qui me plaisait le plus.
Et, oui, donc ça...
Et je me suis, si vous voulez, c'était une manière de se faciliter la tâche. Parce que quand quand vous fonctionnez sur le plaisir,
vous parlez mieux.
Oui,
ça se transmet, ça se transmet plus facilement. Mais à côté de ça, c'est beaucoup d'heures d'écoute, on imagine, de recherche, de compositeur.
Alors, beaucoup d'heures d'écoute, là encore, grâce soit rendue à Radio France, parce que quand j'ai commencé dans les années 70, il y avait 4-5 versions d'une œuvre. Mais vous voyez où on en est aujourd'hui. On en est, pour les œuvres les moins connues, à plusieurs dizaines, pour les plus connues, à plusieurs centaines. Alors, à l'intérieur de ça, vous n'avez pas tout ça chez vous. La discothèque de Radio France, elle, qui est une sorte de BN, si vous voulez, de l'enregistrement, elle a tout. Donc, si vous voulez, si je n'avais pas eu la discothèque de Radio France, je n'aurais pas pu maintenir ce niveau d'exigence. Et si je n'avais pas eu la discothèque de Radio France, je n'aurais pas eu cette vision aussi panoramique de tout ce qui se faisait. Je leur suis extrêmement reconnaissante d'avoir existé, d'avoir tenu ça, c'est-à-dire tout ce qui paraissait, on le trouvait à Radio France. Il y a eu une époque où économiquement, c'était pas évident pour eux, parce que contrairement au dépôt légal à la BN, il est obligatoire, il est gratuit. Radio France achetait ses disques.
Ah alors, oui, d'accord.
Il avait des tarifs. Hein
oui, on imagine.
Mais il achetait.
Mais du coup, ça maintenait la curiosité, justement, de pouvoir écouter tous ces morceaux de musique. Nous allons passer une deuxième musique que vous avez choisie.
Alors, ça, c'est une mélodie. Alors, là aussi, là, pour le coup, on va reparler des interprètes après, mais c'est Liszt, c'est un musicien qui est surtout connu, c'est un fou du piano, c'est un génie du piano. On connaît moins ses mélodies. Et ce jeune chanteur qui est venu me demander un peu d'aide pour publier ce disque. Je l'ai applaudi des deux mains parce que les mélodies de Liszt, on ne les connaît pas du tout. Et c'est des soleils, vous allez vous en rendre compte. Ça, c'est une mélodie qui est une simple mélodie d'amour. Grosso modo, ce qu'elle dit, je voudrais le dire un tout petit peu parce que comme ça est en allemand, bis du, c'est tu es aussi belle qu'un ciel de Rome au petit matin, au printemps. Tu es aussi belle que tout ce que vous pouvez imaginer. Puis à un moment donné, il y a une strophe, 3 minutes, oui, mais quelquefois ça t'arrive de pas être contente de moi et tout d'un coup tes yeux deviennent un glacier. Oui, mais je sais faire fondre ce glacier.
C'est magnifique. Alors on le passe tout de suite et puis on en reparle à la fin du morceau.
Denn aus den Sphären des Lichts, denn aus Schönheit und Liebe kommst du.
FM 93.1 dans l'émission Les Grands s'amusent avec Stéphane Goldet. Nous venons d'écouter Lis, un morceau absolument magnifique qui on s'est laissé complètement porter là. Donc Cyril, c'était interprété par Cyril Dubois
et au piano et
Tristan Rice, c'est ça. Et
les mélodies, c'est toujours un tandem.
C'est très expressif. Oui, c'est toujours un tandem.
C'est toujours un tandem. C'est jamais un chanteur tout seul. Hein. Voilà. C'est 50% le piano, 50% le chanteur.
Et en tout cas, c'est plein de poésie. Voilà, il y a une puissance de sa voix qui est absolument sublime.
Une puissance et une légèreté en même temps.
Et de légèreté en même temps, c'est vrai. C'est vrai.
Oui. Tristan et Cyril forment un très très joli couple d'interprètes. Ils font la musique ensemble depuis au moins 10 ans et ça s'entend. Il y a une fusion entre deux.
Il y a une fusion entre les deux. Ouais.
Alors c'est ce que je fais maintenant, c'est-à-dire depuis que j'ai quitté Radio France, j'ai créé une petite fondation abritée à la Fondation de France qui me permet d'aider les musiciens à réaliser un projet, que ce soit un disque, un film, une action quelconque, un concert. Je me sers de ce que m'a appris, ce que j'ai compris, disons, de la réalité du système économique français pour les aider à ajuster le projet. Je vous donne un exemple. Le Quatuor Hanson, il n'a pas de nom. Il faut, pour sortir un disque, qu'il utilise un autre nom. Il faut au moins que ce disque soit sur un musicien qui va être clairement perceptible. « Ah, c'est un disque Haydn. Ah, c'est un disque Mozart. » Au moins ça, les aider à définir un projet. Et quand je me suis rendu compte que ces quatre-là jouaient Haydn mieux que tous les autres, tous les musiciens que j'avais eus en émission publique jusqu'à eux, je les ai eus à 3 reprises dans Haydn, c'était mieux que tous les autres interprètes que j'ai eus dans Haydn. Je me suis dit, c'est tout simple, ils doivent faire un Haydn. Et quand je leur ai proposé ça, ils ont été un peu étonnés. Ils n'avaient pas eux-mêmes perçu à quel point dans Haydn ils étaient vraiment si bons que ça. Et ça, si vous voulez, ça m'a conforté dans le sens de ma mission de service public, c'est-à-dire d'être capable d'aider des gens au-delà, grâce, je n'aide personne que je n'ai entendu au concert, parce que la réalité de la musique, c'est le concert.
Et oui.
Il n'y en a pas d'autre. Hein.
Et oui, et malheureusement, là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué.
Oui.
Donc...
Heureusement, il y a eu des concerts avant et il y en aura après.
On espère que ça va repartir.
Ça va repartir
très vite. Mais c'est vrai que Cyril Dubois, c'est un des. Il est considéré comme un des meilleurs ténors français de sa génération, non?
Oui, et bien il a une carrière d'opéra. La mélodie, c'est tout à fait autre chose. Et il a eu besoin d'un petit peu de soutien pour être conforté dans cette idée de faire des mélodies d'un compositeur qu'on n'attend pas là. Et là, il avait tout à fait raison parce qu'il n'y a pas de discographie de ce genre, les mélodies de Liszt. Et du coup, son disque a été repéré tout de suite. Enfin, maintenant, si on a envie d'entendre une mélodie de Liszt, on sait que Cyril et Tristan ont marqué. Il y a une grâce dans ce qu'on vient d'entendre.
C'est magnifique. Et vous, c'est vrai que là, vous avez dû être un peu frustrée, non, pendant cette période de non-concert.
Alors, c'est surtout les musiciens qui ont souffert. C'est eux qui ont quand même un ADN qui est complètement fabriqué sur la tension du travail pour la scène.
C'est un peu frustrant de travailler comme ça dans le vide.
Alors, ils travaillent quand même pour monter du répertoire. Ils peuvent toujours... Mais ce qui est très anxiogène, c'est que je vous rappelle que quand même, ils vivent de ça. Il n'y a pas de filet. Et que quand même, leurs revenus ont été sérieusement entamés pour la majorité d'entre eux. Alors, l'État français a été formidable parce que grâce à cette intermittence du spectacle, la partie d'entre eux qui relève de l'intermittence du spectacle a pu être en partie très confortablement dédommagée. Mais c'est pas la totalité. Et donc, si vous voulez, c'est... Alors, il y a toute l'affaire du concert sur numérique, hein. Alors, je ne sais pas quel est le mode économique de ça, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils m'ont tous raconté que c'était une souffrance terrible, parce qu'il n'y a aucun retour du public.
Et oui, c'est ça, c'est épuisant.
C'est, si vous voulez, la musique, c'est un triangle. Hein. C'est une œuvre, des interprètes, un public. Beaucoup de choses marchent en triangle dans la vie. Ouais. Quand on y réfléchit bien, c'est
votre théorie du triangle. Voilà,
j'ai plusieurs théories. La théorie du 2, la théorie du 3. La théorie du 2, c'est que quand même, on peut toujours se poser la question de savoir si on fait une chose d'une certaine manière, on peut quand même voir si on ne la fait pas d'une autre.
C'est le regard à 360 degrés, toujours, de regarder. Dans, voilà.
Mais le triangle, et si vous voulez, sans le public, c'est extrêmement difficile ce qu'on leur demande. Et ils sont très angoissés dans la période actuelle de se dire, est-ce que le public va revenir au concert. Moi, je suis absolument certaine, Dieu sait si je ne suis pas optimiste,
que ça va revenir.
Parce que le numérique ne remplace absolument pas l'échange, ni de leur côté, ni d'une autre. Oui. L'autre étant le public.
Alors moi, j'ai une question, c'est que là, on vous sent, quand vous parlez de musique, hein, vous êtes vraiment toujours passionné. Comment est-ce qu'on fait pour garder cette passion intacte pendant 40 ans de carrière, d'émission?
Cette passion, si vous voulez, c'est elle m'est tombée dessus, je vous dis, à 11 ans, et elle s'éteindra le jour de ma mort. Ou peut-être que je continuerai après, j'en sais rien.
C'est votre vie, c'est ça.
C'est une forêt vierge. J'ai l'impression, si vous voulez, que j'ai peut-être fait, je sais pas, 2 ou 3 kilomètres dans cette forêt vierge et qu'elle a 1000 kilomètres devant moi.
Et oui,
je
crois qu'il y a encore tout à découvrir. C'est un beau message.
On peut toujours approfondir, on peut toujours aller voir à côté. Non, c'est sans limite.
C'est sans limite. Alors, il y a Étienne Chanson qui est avec nous ce soir.
Bonsoir.
Ouais, bonsoir Étienne, qui présente l'émission qui va suivre sur Aligre FM, Harmonie du soir de 20h à 21h, et qui, je te laisse, si tu veux en parler, 2 minutes.
Oui, tout à l'heure, je profite de votre présence, Stéphane Goldé, on connaît, comme on l'a dit, votre intérêt pour le lead, notamment le lead romantique allemand, pour rediffuser une émission que j'avais réalisée, je crois, en juillet dernier, qui n'était pas de circonstance, puisqu'on parlait du voyage d'hiver, on était en plein été, et puis aussi de la belle meunière, les deux grands cycles de Schubert. Et donc, on réécoutera à 20h cette émission que j'avais préparée, dans laquelle on pourra entendre, je crois, une interprétation que vous aimez beaucoup, qui est celle de Sviatoslav Richter au piano et de Peter Schreier, le ténor. Ce sera tout à l'heure à 20h, du coup.
Voilà. Donc, est-ce que tu avais une question ou deux questions, je ne sais pas, des questions à poser à Stéphane, je crois.
Bien sûr. Alors, peut-être deux questions, une un peu technique, on va dire, ou plus musicale, musicologique, et une autre plus personnelle. Je vais commencer par celle qui concerne la musique. Vous avez un grand intérêt pour le quatuor à cordes. J'étais moi-même un auditeur des plaisirs du quatuor le dimanche après-midi sur France Musique. Et cette question que j'avais envie de vous poser, c'est que le quatuor à cordes est un genre assez particulier quand même, dans lequel on peut repérer que les compositeurs y ont livré leurs œuvres à la fois les plus concentrées, les plus expérimentales même, on pense au dernier quatuor de Beethoven, on pense au quatuor de Bartok, mais aussi leurs œuvres les plus intimes, pensons au mouvement lent des quatuors de Beethoven qui sont des véritables méditations, à la suite lyrique de Berg, au quatuor de Ma vie de Smetana, enfin des œuvres assez autobiographiques finalement. Et qu'est-ce qui fait que ce genre, le quatuor, par sa nature, par ses qualités intrinsèques, permet d'opérer cette double problématique qui est à la fois l'expérience musicale assez formelle d'un côté et de l'autre l'expression de l'intimité.
Parce que le compositeur qui choisit le quatuor à cordes, je vais employer une expression un peu triviale et j'espère que je ne choquerai personne, il se met à poil. Il se met à poil, il dit mais qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que je vaux ? Parce que 4 instruments de la même famille, c'est rétrécir terriblement le champ du possible quand même. Vous n'avez pas tout ce qui va être, si vous composez par exemple, si vous avez une idée de pièce instrumentale, vous allez utiliser toutes les couleurs de l'orchestre qui vont donner des chatoiements différents. Là, il n'y a pas de chatoiement. Il y a ce que les cordes permettent, qui permettent beaucoup. Hein, des sons harmoniques, des sons flûtés, mais ce ne sont que 4 instruments de la même famille, dans lesquels 2 sont analogues. Donc déjà, vous rétrécissez. Quand vous rétrécissez, oui, ben vous êtes à poil devant la glace, vous dites « qu'est-ce que je vaux ?» Et à ce moment-là, vous vous sortez les tripes pour être capable de sortir le meilleur de votre invention, ce qu'ils ont tous fait quand ils ont écrit des quatuors à cordes, c'est un fait. Alors, ce que je trouve de très émouvant dans le quatuor à cordes, dans son principe, c'est que ces 4 de la même famille qui doivent, pour bâtir quelque chose ensemble, s'écouter. C'est-à-dire que c'est vraiment la matrice d'une sorte d'idéal social dans lequel un violon va donner un thème, le deuxième va le répéter en dessous, mais la deuxième fois qu'il va le répéter, il va introduire une idée nouvelle pour lui dire « Tu sais, on pourrait peut-être modifier ça comme ça. » Le violoncelle dit « Pas du tout, moi je vais de mon côté, racontez ce que vous voulez, vous ne m'intéressez pas. » L'alto essaye de faire la fusion entre, si vous voulez, il y a tout le jeu subtil de l'échange humain. Et on est sur l'idée qu'on travaille à l'élaboration du beau ensemble. Ce qui n'empêche que par moments, on se tape sur la gueule, on fait des tas de choses terribles, mais on vise la réconciliation finale, quelle que soit la modalité de cette réconciliation. Donc pour moi, c'est un idéal pour le compositeur, c'est un idéal pour les interprètes, et du coup, c'est toujours vivant. Parce que c'est quand même la seule forme instrumentale qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, est encore vivante, laissée par la tradition de la musique classique. On n'écrit plus de symphonies pour grands orchestres, on n'écrit plus de concertos, mais on écrit toujours des quatuors à cordes. Ben j'espère que j'ai répondu.
Absolument, ouais. Parfaitement. Et l'autre question, on va dire, c'est pour revenir peut-être sur votre expérience aussi de spectatrice et d'auditrice de concert que vous avez été nécessairement.
Que je suis toujours.
Que vous êtes toujours, bien sûr.
Puisque j'ai dit que je continuerai après ma mort. Voilà.
Et savoir peut-être si vous pouviez évoquer un grand souvenir de récital ou d'opéra, même un ou deux, parce que c'est toujours difficile de choisir, mais est-ce qu'il y a un spectacle, récital, concert ou opéra qui vous a particulièrement marqué dans tout ce que vous avez vu?
Vous savez, quand on, c'est comme quand on demande aux musiciens un compositeur,
voilà,
c'est
difficile.
Strictement impossible.
C'est compliqué. On peut en perdre deux ou trois.
La première symphonie de Mahler dirigée par Giulini, le premier opéra que j'ai vu, j'ai 14 ans, c'est à Salzbourg où j'étais allée en 1968. C'était très acrobatique de quitter la France en 68, hein, je vous assure, parce qu'on n'avait pas le droit d'emporter de l'argent. Donc je travaillais comme professeur de je sais plus quoi, je me demande si je donnais pas des leçons de piano déjà, incroyablement gonflé pour payer mes places de concert. J'ai vu Le Chevalier à la Rose avec Elisabeth Schwarzkopf et Christa Ludwig est dirigé par Herbert von Karajan. Et la scène d'ouverture, ces deux femmes, il y a l'ouverture symphonique, et les deux femmes sont sur leur lit. Hein. Et ben, moi, j'ai marché au premier degré, c'est-à-dire que pendant tout cet acte-là, j'ai pensé que c'était, et c'était magnifique musicalement, j'adhérais à tout, que c'était l'amour entre deux femmes. J'ai commencé dans la vie comme ça. Hein. En fait, c'est un travesti. Hein. C'est une des conventions de l'opéra, mais j'avais 14 ans, il n'y avait pas de sous-titres à l'époque, et on est porté par la musique. Mais ce que j'ai aussi eu comme sentiment ce jour-là, c'était que ce qui se passait sur un opéra quand c'était véhiculé par des compositeurs et des librettistes de cette qualité-là, c'était plus vrai que la vie. Et ça n'a pas été démenti 50 ans après. Je continue à considérer que c'est la vie en plus vrai encore, l'opéra.
C'est très joli. Ouais. Nous allons passer un petit morceau, Grieg, Le Petit Ruisseau.
Alors, un petit mot du Petit Ruisseau, parce que c'est une pièce qui a un titre, qui s'appelle Le Petit Ruisseau. Grieg a écrit comme ça des petites pièces pour piano seul tout au long de sa vie. Et avec la musique classique, il faut se méfier. Quand il y a un titre, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Mm-hmm. Alors, vous allez entendre, on entend le ruisseau qui cavale sur les petits cailloux, mais on peut aussi entendre une attente amoureuse. Et la musique classique, c'est un millefeuille. Hein.
Donc, tout un poème. Nous passons le morceau tout de suite. Thank you.
l'eau s'écoule tout doucement.
Ou un petit diablotin, un petit diablotin qui s'est enfui à toute vitesse, comme ça.
Nous sommes toujours sur Radio Allègre. Est-ce qu'on peut s'imaginer, on peut interpréter ce qu'on veut, justement, en fonction de quand on écoute un morceau de musique?
Ce qui m'a tellement plu dans la radio et pas dans la télévision, c'est que là, on est dans de l'imaginaire pur.
Et oui, c'est ça.
On fait ce qu'on veut avec son imagination, et la radio permet le déploiement de ça. Et ça, je trouve que cette minute 35 de musique, elle est drôle, quoi. Elle est plurielle, c'est drôle. Alors, qui la jouait? Émile Gilels. Oui. Émile Gilels, c'est un grand pianiste russe qui a beaucoup souffert de ça, d'avoir été le contemporain de Sviatoslav Richter, qui a été quand même en Occident, en tout cas, beaucoup plus connu que lui. Mais Gilels, c'est un très grand pianiste. Vous savez, par exemple, j'ai une déformation professionnelle, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai réécouté cette pièce, je me suis dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est un enregistrement du début des années 70, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un l'a pas fait mieux? Là, je suis complètement déformée. Oui. Donc, je suis allée chercher maintenant sur Internet. Je suis allée chercher, Gilels coiffe tout le monde au poteau. Et ça, c'est très agréable de se rendre compte que la vie musicale, c'est la vie des interprètes. Il y en a du monde d'avant qui sont toujours très, très bien vivants. Merci le disque. D'autres, pour certaines choses, par exemple Haydn, moi je supporte plus les gars du passé. Ils sont tous pas au bon tempo, ennuyeux. Alors que les jeunes, voilà, la grenouille, elle saute dans les prés, quoi. Mais voyez, sur une pièce comme cette pièce qu'on vient d'entendre de Grieg, Gilels coiffe tout le monde au poteau. À mon avis.
Pour vous, la radio, c'est le médium idéal pour écouter la musique?
C'est justement,
ça laisse la place à l'imaginaire.
Parce que si vous voulez, quand vous regardez l'image, celui qui est de l'autre côté de la caméra, il vous force à regarder quelque chose que vous n'auriez pas du tout forcément regardé si vous étiez en train de regarder les musiciens. Ouais. Votre choix de quand vous êtes à la radio, c'est de pouvoir regarder autre chose, de pouvoir vous évader, fermer les yeux, vous écouter aussi bien si ce n'est mieux. Au concert, c'est vous qui choisissez ce que vous regardez. Bon, à la télévision, les gros plans sur le trompettiste qui a des doigts sur les touches et le malheureux qui transpire et tout, c'est terrible.
Ça fait pas rêver.
C'est terrible. La radio respecte cet espace intérieur à l'intérieur duquel
on est vraiment dans
la musique pour l'auditeur. Et ce qu'elle a de formidable aussi, et qui fait que c'est un médium encore vivant aujourd'hui, n'est-ce pas, Radio Allègre FM, c'est que tout le reste, aujourd'hui, Internet, tout ça, ça se manipule de soi-même. Je décide d'aller écouter. Là, vous recevez le choix d'un autre, et quand même, une bonne partie du public mélomane de France, en tout cas dans les années 70-80, reconnaissait bien volontiers qu'il avait découvert énormément de répertoires en écoutant France Musique, qui était à l'époque la seule radio qui diffusait de la musique classique. C'est pas le mérite de ces formidables producteurs, vraiment pas. C'est le fait qu'on était en situation de monopole, mais le fait radio amenait, si vous voulez, dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'éducation musicale à l'école, il y a énormément, je crois, de mélomanes. Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai ressenti quand j'ai eu des émissions publiques. Énormément de personnes venaient me dire « Vous ne pouvez pas savoir ce que vous nous a fait découvrir. Enfin, » Vous, France Musique, pas forcément vous aussi. Oui, moi aussi. Moi comme d'autres. Le sentiment d'être dans un collectif ne m'a jamais quitté.
Eh oui. Ouais. Si vous aviez un message à faire passer aux jeunes, justement,
Évidemment, le message d'une vieille croûte comme moi, c'est travailler. Parce qu'on ne travaillera jamais assez les partitions qu'on veut interpréter. Mais ça, je n'ai pas besoin de leur dire parce qu'ils le savent. Ils le font.
C'est des heures par jour de travail.
C'est minimum 6 heures par jour, quoi qu'il arrive. Ouais. Et si vous êtes en voyage, moi j'ai entendu des quatuors à cordes qui travaillaient dans les salles des aéroports. Donc ça, si vous voulez, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est à ce prix qu'est l'excellence. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, parce qu'il y a des tas de choses, si vous voulez, c'est que moi, j'ai été élevée au piano, mais d'abord par la musique, par la lecture, par le fait de toujours ouvrir, lire à côté, voir d'autres choses du compositeur, voir d'autres choses de la même époque. Et ça, c'est quelque chose qui leur manque aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que il faut absolument ne pas perdre ce qu'on appelait la culture générale. Et quand on fait du quatuor à cordes, il faut aller voir ce que le compositeur a fait pour le piano. S'il a écrit un opéra, il faut surtout aller le voir. Je m'en rappelle un cours d'interprétation percussion ou un quatuor à cordes, qui est arrivé auprès d'un très très bon maître américain pour lui jouer le quatuor de Debussy. C'était un quatuor français. Et le maître leur a dit, ça ne chante pas assez, mais il faut chanter de manière très particulière avec Debussy, qui est un compositeur français du début du XXe siècle. Naturellement, dit-il aux musiciens, vous avez vu Péléas et Mélisande, l'opéra de Debussy. Aucun des musiciens ne savait même apparemment que Debussy avait composé un opéra. Qu'est-ce qu'ils se sont pris comme savons, les malheureux ? Mais ça leur a servi de leçon.
Mais écoutez, on arrive déjà à la fin de l'émission. Donc moi, je voulais vous remercier pour cette transmission musicale. La musique est au cœur de nos vies. Elle nous fait vibrer. On sent qu'elle vous fait tout, elle vous fait vibrer, puis ça va durer encore longtemps.
Merci beaucoup, Anne, de m'avoir invitée. C'est moi qui vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. On a passé une heure joyeuse avec vous. Et je vous suggère de continuer cette soirée musicale avec Étienne Chanson, justement, dans son émission Harmonie du soir, à 20h, dans une heure.
Pardon, Étienne Chanson, c'est votre vrai nom ?
C'est mon vrai nom, voilà. Oui.
Alors, il est drôlement plus prédestiné que Goldet, ça. Hein. Bravo de l'avoir gardé.
Il est tout à fait à sa place dans Harmonie du soir. Voilà. Tu vas nous parler. Voilà, c'est une émission qui est consacrée au célèbre cycle des leaders de Schubert, Le Voyage d'hiver et La Belle Meunière. Voilà. Merci à la technique. Merci à Elias Lacassin, à Geoffroy Douvreleur et à Lucas Benevaux.
Merci tous.
Merci à tous. Et je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À très bientôt. Au revoir.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, something without wanting love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a love. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. Instead of